Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Et c'est Clément, notre ancien président, qui a fermé provisoirement ses livres d'agrégatif en histoire pour ouvrir le bal avec un édito international qui, une fois n'est pas coutume, nous emmène au Moyen-Orient. Bonjour Clément.
Bonjour Maëlys. Et bon, rebonjour Maëlys, puisque j'aime te dire bonjour. Je t'ai pas beaucoup vu aujourd'hui, alors j'ai vraiment envie de te saluer. Et en effet, comme tu l'as dit, on va partir aujourd'hui au Moyen-Orient, en Israël. Alors, petite colle avant de commencer, Maëlys, sais-tu qui est David Friedman ?
Non, je sais pas qui c'est.
Tu ne sais pas ? Bah, ça va beaucoup te plaire. Figure-toi que David Friedman, c'est le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, nommé par le président Trump. Et la nomination de ce monsieur n'est pas sans conséquence, puisqu'il s'agit d'un fervent partisan de la colonisation, des territoires revendiqués par les Palestiniens, et notamment la Cisjordanie. Alors la Cisjordanie, pour replacer un peu les choses, c'est ce territoire qui est situé entre Israël, à l'ouest du Jourdain, et la Jordanie à l'est. Alors je vous passe les détails du conflit parce que c'est extrêmement compliqué et j'ai pas le temps de les développer entièrement, mais c'est le grand territoire qui est revendiqué par l'autorité palestinienne. Or, c'est dans cette région, entre autres, que la colonisation est encouragée par l'État d'Israël. Concrètement, cette Cisjordanie, elle est soumise à la loi militaire et l'installation des Israéliens est encouragée par l'État sur des terres revendiquées par les Palestiniens. Et c'est cette question au-dessus des autres qui bloque vraiment tout le processus de paix et notamment la solution qui consisterait à créer un véritable État palestinien aux côtés de l'État israélien. Vous imaginez donc que la nomination par les États-Unis, qui sont un acteur majeur du Moyen-Orient, d'un ambassadeur pro-colonisation, c'est assez violent et très mauvais signe pour le processus de paix.
Et d'autant plus que la situation est devenue explosive courant décembre.
Oui, en effet, puisque l'un des derniers actes de l'administration Obama a rendu furieux le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Vous vous souvenez peut-être qu'en décembre, les États-Unis se sont abstenus lors d'un vote à l'ONU, permettant l'adoption d'une résolution condamnant la poursuite de la colonisation. Et en effet, les États-Unis se sont abstenus lors de cette résolution. Et en plus de cette contestation internationale, donc au niveau de l'ONU, le Premier ministre israélien Netanyahou doit également faire face à une très importante opposition interne sur la question. En effet, la Haute Cour israélienne, qui est le plus haut organe judiciaire du pays, a ordonné, début décembre, l'évacuation de l'avant-poste d'Amona, une série de constructions illégales israéliennes. Ça a constitué une victoire pour tous les opposants palestiniens et les opposants israéliens à cette colonisation, même si elle a été plus symbolique qu'autre chose. Et cet avant-poste a finalement été évacué début février. Les journalistes du Monde étaient présents à ce moment-là et ont entendu des choses qui sont extrêmement sympathiques, allant de « cette terre est israélienne », comme ça, à « pendant 8 ans, Obama ne nous a pas laissé construire ». Maintenant, nous nous préparons à la visite de Netanyahou chez Trump le 15 février. C'est un moment historique. Il faut coincer Netanyahou pour qu'il comprenne. On l'a élu, il doit prendre ses responsabilités. Ça, c'était dans la bouche du représentant des colons de Cisjordanie. Et le Monde décrivait aussi des colons juifs fanatisés et persuadés d'être dans leur bon droit et attendant avec impatience la reprise de la colonisation.
C'est une fuite en avant du coup ?
Oui, et ça c'est une information qui est sortie avant-hier. Alors même que l'administration Trump, qui avait envoyé donc des signaux extrêmement positifs en faveur de la colonisation, cette administration elle a un peu temporisé ses positions ces dernières semaines et elle est revenue sur ses déclarations pour finalement essayer de calmer un peu les choses. Mais Netanyahou, lui, a l'air bien décidé à donner des gages à son électorat. Le 6 février, lundi dernier donc, la Knesset, le Parlement israélien, a voté un texte qui risque malheureusement de faire date, puisqu'il ouvre la voie à la législation de toutes les installations coloniales, illégales bien sûr, en Cisjordanie. En fait, qu'est-ce que ça signifie un tel texte ? Eh bien, un texte comme celui-là légitime purement et simplement les expropriations qu'ont pu subir tous les Palestiniens vivant sur place. Sachant qu'on est dans une région sous administration militaire, donc vous imaginez un peu les droits des Palestiniens. Le texte viole bien sûr toutes les législations internationales sur le sujet, ainsi que de multiples résolutions de l'ONU depuis des décennies, et ce sont près de 4000 logements en tout qui pourraient être légalisés par un texte qui est en plus très problématique du point de vue éthique. c'est la première fois dans l'histoire israélienne qu'est voté un texte prévu pour s'appliquer en dehors du territoire national, puisque la Cisjordanie ne fait pas partie du territoire national israélien, et aux dépens des Palestiniens, qui n'ont évidemment aucun droit politique en Israël. Très sympathique donc.
Et du coup, Clément, pourquoi une telle accélération de la part du Premier ministre israélien ? Il me semblait qu'il avait lui-même mis en garde la Knesset quant à l'adoption d'un tel projet de loi.
Oui, exactement. Et finalement, ce revirement s'explique avant tout pour des raisons de politique intérieure. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le représentant des colons disait à propos de Netanyahou : « On l'a élu, il doit prendre ses responsabilités en faveur de la colonisation. » Netanyahou gouverne en coalition et gouverne très à droite, et ne veut surtout pas perdre son électorat orthodoxe, très religieux et très favorable à la colonisation. Et puis, en ce moment, il est cerné par un certain nombre d'affaires, train de vie luxueux, corruption, et même une tentative de contrôler les journaux d'opposition. Alors cette histoire, elle a fait scandale, et elle a été un peu médiatisée en Occident au début de l'année, puisqu'ont été publiés des enregistrements le montrant à l'œuvre.
Merci Clément pour ce retour éclairant sur un sujet qui reste douloureux et on a l'impression de rejouer la même scène relativement régulièrement avec toutes ces mises en garde contre de la communauté internationale contre le gouvernement israélien. Du coup, j'ai une petite question, mais est-ce que en ta qualité d'agrégatif d'histoire qui prépare un sujet, un thème, je crois, consacré au Moyen-Orient depuis 1876, est-ce que tu as un point de vue un peu singulier et un peu...
Alors, un peu singulier, je ne sais pas si c'est très difficile.
Là, chers éditeurs, imaginez que Clément est en train de remettre ses lunettes sur son nez avec un air très, très intellectuel. On t'écoute, Clément.
Alors, en fait, pour comprendre cette question palestinienne et pour comprendre pourquoi on a tous ces colons israéliens qui sont extrêmement attachés à cette colonisation et à cette entreprise en fait, de colonisation, il faut comprendre qu'il y a eu une espèce de mythe sur la terre palestinienne. Et ça, c'est un mythe qui a été développé à la fois par des Européens au début du 19e siècle, mais aussi par toute l'historiographie israélienne depuis la naissance de l'État en 1948. C'est-à-dire que tous ces historiens israéliens de la première génération, ceux qui ont connu la fondation d'Israël en 1948, la guerre, et puis la guerre du Kippour, la guerre de 1973, ce sont des gens qui ont construit le mythe d'une terre sainte finalement inhabitée. Il n'y aurait jamais eu de Palestiniens, il n'y aurait jamais eu d'habitants en Palestine. Ça aurait été une terre vierge. Au point que il n'y avait pas de Palestiniens et on a même des Européens qui, quand ils allaient en Palestine à la fin de l'époque ottomane, donc au début du XXe siècle, prenaient des photos, on a très beaux clichés là-dessus, ils prenaient des photos de Jérusalem où on voyait finalement le temple, la colline avec la vieille ville. Ouais. Et toutes ces photos allaient nier complètement la nouvelle ville qui était déjà très peuplée.
D'accord. Bah, merci Clément pour
Le jury vous remercie, Monsieur Nicole,
pour cette prestation. Je pense que tu auras 20 le jour de.
Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup.
Sans transition aucune, direction l'édito politique tout de suite, assurée par moi-même, dans lequel je vais développer un petit peu aujourd'hui pour changer le cas Marine Le Pen.